Sud Radio, tous au jardin.
Bonjour Alain Delavie.
Bonjour Laurence.
On rappelle que bien sûr que vous êtes directeur de la rédaction du magazine Rustica. Alors ce matin, vous allez nous donner des conseils pour garder nos jardins et nos balcons bien fleuris là au cœur de l'été. Parce que on peut le dire, hein, pour le jardinier, l'été c'est pas encore le repos du guerrier hein, en fait.
Hein. Et non, pas de repos pour le jardinier ou la jardinière. Le cœur de l'été, eh bien, il faut travailler si on veut garder un jardin très fleuri puis un potager très productif jusqu'à la fin des beaux jours.
D'accord.
Alors aujourd'hui, je vous propose un petit programme d'entretien pour les jours et les semaines à venir en 4 points.
Bon, on va tout noter alors. Hein.
Oui,
je sens voilà. Monsieur le professeur en 4 points.
Non, juste un ami jardinier qui conseille. Voilà. Et ben, on va commencer par le tuteurage. On va tuteurer les grandes fleurs. Alors qu'elles soient vivaces, c'est-à-dire qu'elles restent plusieurs années, ou les plantes annuelles. C'est un geste qui permet de préserver les floraisons et puis l'aspect soigné du jardin parce qu'on n'a quand même pas envie que tout s'écroule. Un orage et souvent ces grandes plantes tombent, donc, ou une grosse période de pluie. Donc le tuteurage est très utile.
Alors pourquoi les fleurs d'été, celles-ci, on doit les tuteurer? C'est pas facile à dire d'ailleurs.
Oui, c'est pas facile. Eh bien, parce qu'elles ont pris beaucoup d'ampleur. Mmh. On les a plantées au printemps où elles sont là depuis plusieurs années. Elles prennent de l'ampleur. Et si vous avez un peu trop la main lourde sur les apports d'engrais l'hiver dernier ou au cours du printemps, ça a poussé en longueur, en hauteur et parfois démesurément, mais avec des tiges d'une grande fragilité. Au moins de coups de vent un peu fort ou après une forte pluie, toutes ces plantes s'avachissent dans les allées ou sur leurs voisines. Les massifs ou les potées se creusent, offrant alors un aspect pas très reluisant, surtout si vous rentrez de vacances.
Oui,
mieux vaut prévenir que guérir. Quelques tuteurs viendront discrètement soutenir les massifs et les potées volumineuses. Les plantes grimpantes comme les Ipomées volubilis, le houblon panaché, les cobées, les capucines grimpantes, les suzanes aux yeux noirs ont besoin d'un support pour se hisser et fleurir. Sinon, elles courront sur le sol ou retomberont en longue guirlande sur le rebord du balcon. Je peux en attester, ballottées et parfois cassées par le vent. Et les voisins n'aiment pas toujours. Vous pouvez récupérer des tiges de bambou ou de noisetier ou acheter des tuteurs d'une dimension adaptée à celle de la plante pour la maintenir.
Donc il y a un mode d'emploi quand même, hein, on ne titure pas de la même manière. Hein,
il y a des différences suivant les espèces.
D'accord.
Plus le végétal est imposant et grand, plus le tuteur doit être robuste et épais pour résister aux assauts des rafales de vent qui peuvent être vite violentes par temps d'orage. Prenez une longueur du tuteur bien supérieure à celle de la plante, car une partie du support doit être enfoncée profondément dans le sol, et puis ça va pousser encore. Ouais. Fixez une ou deux tiges le long du tuteur en faisant attention à ne pas casser la tige. Celle des dahlias, par exemple, se casse comme du verre. Et en veillant à ne pas trop serrer la tâche qui maintient les deux, plante et tuteur, ensemble. La plante doit être maintenue, mais il ne faut pas la ligaturer, empêcher sa croissance normale. Bien posés, les tuteurs se dissimulent vite dans les feuillages et se font oublier.
Ouais.
Soyez prudents quand vous nettoyez vos fleurs pour ne pas vous blesser avec un tuteur dissimulé. Sur un balcon, c'est très important, on se baisse. On n'a pas fait attention au tuteur et c'est l'accident.
Je sens qu'il y a l'expérience du jardinier qui parle là, non ou pas, je ne sais pas.
Oui, en connaissance de cause. Et j'ai des lunettes.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des petits gestes à ne pas oublier durant toutes ces opérations-là, Alain?
Oui, palissez les nouvelles pousses de vos rosiers grimpants qui sont très vigoureux, surtout avec s'il y a eu des bonnes pluies. De votre glycine, de votre kiwi, de votre treille ou de vos pieds de mur, ces lianes très vigoureuses doivent être dirigées et surtout on les dirige à l'horizontale parce que par exemple sur un rosier, ça va déclencher l'apparition de nouvelles pousses et ça va pousser beaucoup plus vite et fleurir encore plus.
À quel signe on voit que là, vraiment une plante a soif et là qu'il est temps de un petit peu de
Eh bien, son feuillage. Son feuillage est plus terne, il est plus flasque, il a même tendance à retomber. Avec les potées d'impatience, par exemple, l'effet est très spectaculaire, car la plante, en quelques heures, s'écroule littéralement quand elle n'a plus d'eau. Alors attention, un manque d'eau ou un excès d'arrosage, eh bien, on a souvent les mêmes signes. C'est-à-dire qu'une impatience trop arrosée, ça ressemble à une impatience qui manque d'eau. Donc il faut quand même aller un peu tripoter le sol, toucher le sol pour voir si il est sec ou s'il est trop humide et quelle est la cause. Donc il faut bien arroser. L'arrosage se fait souvent, le plus souvent, au pied de la plante, sans mouiller le feuillage et encore moins les fleurs. C'est important parce qu'à cette époque de l'année, les champignons parasites rôdent et demandent qu'un peu d'eau pour se disperser sur tous les feuillages. Donc pas d'arrosage par aspersion ou au tourniquet ou à la balancelle. C'est vrai qu'on installe ça et puis on part et on va se reposer dans sa chaise longue. Eh bien non, au travail jardinier. Car en plus, cela gaspille l'eau et surtout cela favorise la propagation de ces terribles champignons comme le blanc, le mildiou ou la tavelure. En août, on arrose le soir, au moins 2 heures après le coucher du soleil, jamais en plein cagnard. Vers le mois de septembre, vous arroserez plutôt le matin parce que les nuits sont beaucoup plus fraîches.
Alors ça, c'est pour l'arrosage, Alain.
Oui.
On passe quoi à... Le matériel, l'engrais...
L'engrais, va s'occuper de l'engrais. Justement, on vient d'arroser.
Pour relancer cette vague
justement.
De floraison, oui, c'est
voilà.
Ça.
Après avoir bien arrosé, on peut mettre de l'engrais. Oui. Et pourquoi on va mettre de l'engrais au mois d'août? Eh bien, parce que souvent, ça a beaucoup fleuri en juin et en juillet. Puis, il y a un petit coup de mou, un petit coup de faiblesse. Et puis, pour ceux qui sont partis en vacances, bah, vous avez délaissé vos plantes, donc elles ont un peu souffert.
Oui.
Donc, on va simplement les restimuler pour qu'elles reprennent bel aspect et... Au courant du mois d'août et surtout en septembre, vous allez retrouver un jardin plus au top et bien joli.
Alors pour ceux qui ont un jardin, je ne sais pas, avec des végétaux cultivés en pleine terre, qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors on va s'intéresser aux dahlias, aux canas, aux datura. Alors les datura, c'est ces fameux arbustes qui font des grandes clochettes qui retombent, qui sentent si bon, qu'on regarde avec les yeux, mais qu'on ne grignote pas surtout, même si vous avez un chat ou un chien ou un enfant, parce que c'est très poison, c'est joli, on en trouve partout, mais c'est quand même du poison. Mm. Par contre, ce sont des plantes, c'est 3 plantes qui demandent beaucoup, beaucoup de nourriture. Donc, un petit coup d'apport. Vous pouvez, si vous avez des orties, faire un purin d'ortie ou vous prenez un engrais organique pour tomates. On en trouve dans toutes les jardineries. Et puis, plus, c'est beaucoup plus efficace que les spécialités pour géranium. Parce qu'on dit souvent, alors, on va vous vendre plein d'engrais. Un engrais pour géranium, un pour dipladénia, un pour dahlia, un pour tomate, un pour fraisier.
Ça, c'est un peu le business, ça, non?
Voilà. Vous prenez l'engrais pour tomate et vous nourrissez tout
d'accord,
le monde.
Voilà,
et vous aurez des belles fleurs et des beaux fruits. À cette époque de l'année, préférez plutôt des engrais liquides, organiques mais liquides, ou en poudre que vous allez diluer parce qu'ils vont être plus rapidement assimilés. Comme la saison est déjà bien avancée, il faut... Plutôt un engrais coup de fouet, plutôt qu'un engrais trop long qui va mettre du temps.
Pour terminer, Alain, pour tous ceux qui ont plutôt sur des jardinières ou des potées, sur le rebord des fenêtres, des balcons, des terrasses...
Eh bien, on va faire pareil, mais on va plutôt prendre un engrais liquide, puisque là, il y a moins de terre, il faut une action plus rapide. Les plantes ont souvent tellement fait de racines qu'elles occupent tout le pot. Donc, vous allez prendre un engrais organique. Je le redis, vous pouvez prendre un engrais pour géranium si vous avez des plantes fleuries ou vous prenez un engrais pour tomates, ça fait l'affaire, engrais organique liquide. Si vous avez des coléus ou des plectranthus, donc des plantes à feuillage, vous allez plutôt prendre un engrais organique riche en azote. Donc, ce n'est pas du tout à fait le même. Si vous avez un engrais pour bambou ou pour gazon, c'est parfait. Donc voilà, vous prenez un de ces 2 engrais, toujours sur une terre bien arrosée. Donc quand je vous parlais de l'arrosage, vous arrosez bien et après, vous apportez l'engrais et respectez les doses. Inutile d'en mettre plus, vous allez faire plus de mal que de bien. Juste avec la bonne dose, votre jardin sera magnifique et je vous le souhaite pour tout cet été et la fin de l'été.
Promesse de jardinier. Merci pour tous ces conseils, Alain Delavis. C'est bien sûr.
Bon dimanche.
Bon dimanche. Des conseils réécoutés en podcast et bien sûr à lire aussi dans votre magazine Rustica. Merci, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.